Radio Kapi.
Oh, Kapi. Jacques Volima à la présentation.
Offensive contre les rebelles du M23 depuis ce dimanche matin par les FARDC à l'espace de trois antennes au niveau de Kibumba au Nord Kivu. Objectif d'après le porte-parole des opérations Sokola 2, reconquérir toutes les positions occupées par le M23. Qatar-Équateur, c'est la première affiche du mondial Qatar 2022 dont le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 17h heure de Kinshasa. Radio Kapi a obtenu gratuitement de la FIFA et de la New World Television un droit spécial de diffusion non commerciale et humanitaire des matchs de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Enfin, la RDC connaît actuellement la flambée du choléra, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, aussi dans les zones minières et dans le Nord Kivu, dans les camps des déplacés. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Placide Wello, directeur du programme d'élimination du choléra. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais avant d'aller plus loin, sachez que la COP27 a adopté ce dimanche une résolution qui prévoit entre autres la création d'un fonds dédié pour financer les dégâts climatiques subis par les pays particulièrement vulnérables. Cette décision qualifiée d'historique par ses promoteurs a été adoptée par consensus en assemblée plénière sous un tonnerre d'applaudissements en clôture de la conférence climat annuelle de l'ONU à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous y viendront dans nos prochaines éditions. Alors, au Nord Kivu, reprise des affrontements ce dimanche matin entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Nyiragongo. D'après plusieurs sources, les combats se déroulent au niveau de Kibumba, précisément dans l'espace de trois antennes situé à environ 20 km au nord de Goma. Le porte-parole des opérations Sokola 2 dit avoir lancé cette offensive contre les rebelles dans l'objectif de reconquérir toutes les positions occupées par le M23. Bernardine Diambo.
Des tirs à l'arme lourde crépitent depuis 5h30 heure locale vers le groupement Bumba. Akibumba révèle plusieurs sources concordantes de la zone. Elle affirme que les FARDC qui ont pris le contrôle des localités de Kanyamaoro et Nyundo dans le groupement Bumba depuis vendredi ont lancé cette attaque contre le M23 tôt ce matin. Les combats se déroulent vers trois antennes situées à 20 km de Goma. Contactés, les porte-parole des opérations Sokola 2 confirment cette reprise des combats. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko dit que l'armée a comme objectif principal de reconquérir toutes les positions passées sous occupation des rebelles M23 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Sur un autre front, du côté sud-ouest de Kisharo, dans le groupement Binza en territoire de Rutshuru, les affrontements se sont aussi déroulés vers Nyabanira vendredi dans la soirée. Nos sources dans la zone indiquent que les rebelles seraient venus de Kitagoma vers Busanza. Ils tenteraient d'avancer vers Kasave où ils ont été délogés par les FARDC. Signalons qu'hier samedi, une accalmie avait pourtant été observée sur certaines lignes de front. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Toujours Nord Kivu, la famille de maître de monsieur Blaise Kavungera, chef du protocole d'état du gouverneur militaire, demande justice en sa faveur. Sa famille, qui dit avoir fait le tour des lieux de détention ici à Kinshasa, ne l'a pas retrouvé. Cette famille voudrait aussi être fixée sur les raisons qui ont conduit à l'arrestation de leur fils. Maître Kiuma Kavungera Eric s'est exprimé au nom de la famille de Blaise Kavungera.
Comme famille, nous sommes au regret de constater que depuis que notre frère Blaise a été arrêté, jusque maintenant nous ne savons même pas là où il est gardé, moins encore pour un motif ou tel autre motif. Nous demandons que justice soit faite, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Que ça soit peut-être les rumeurs qu'on est en train d'apprendre qu'il a été arrêté sur base de l'instruction d'un conseiller du président de la République. Mais je me dis non, moi comme juriste, je comprends bien qu'il y a des magouilles derrière tout ça, parce que un conseiller du président de la République n'a pas qualité de faire arrêter. Tout est fait sur base des textes et des lois du pays. Parce qu'on n'arrête pas quelqu'un parce que le conseiller a dit, mais plutôt on l'arrête parce qu'il y a des frais graves mis en charge de la personne arrêtée. Nous voulons que justice soit faite. S'il n'est pas coupable, qu'il soit relâché sans délai. Mais aussi, nous demandons au président de la République de voir comment mettre en marche l'état de droit, parce que pour nous, nous estimons que jusque-là, le pays n'a pas encore connu l'état de droit.
Rappelons que le chef du protocole d'état du gouverneur militaire a été interpellé mercredi à Goma avant d'être transféré ici à Kinshasa par l'Agence nationale de renseignement qui lui reproche de collaborer avec les rebelles du M23 à qui il fournirait des informations. Au Kassa Oriental, près de 1600 nouvelles recrues quittent le dimanche, ce dimanche donc, la ville de Mbujimayi vers Kinshasa pour la formation militaire. D'après le colonel en charge du recrutement à la 21e région militaire, ces jeunes hommes et femmes ont répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État lors de son discours à la nation. Depuis ce samedi, ces jeunes ont été regroupés au camp militaire Ntsele pour une causerie morale. Ce dimanche, ces jeunes ont sillonné les artères de la ville pour inciter les autres jeunes à s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelons que le mercredi dernier, plusieurs jeunes avaient manifesté contre l'agression rwandaise à l'Est. Dans leurs mots, certains ont demandé les armes au chef de l'État pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Et puis, plus de 16 incidents dont sont victimes les populations de la province de l'Ituri ont été enregistrés en l'espace d'un mois à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Il s'agit essentiellement de la violation de l'intangibilité des frontières de la RDC par les services de sécurité ougandais, suivi des abus dont la saisie de 13 motos et des matériels de pêche appartenant aux Congolais sur le lac Albert. Les acteurs de la société civile des territoires de Djougou et de Mahagi dénoncent cette situation et demandent au gouvernement de renforcer la sécurité aux frontières du pays. Ezekiel Mouzalia.
Selon la société civile Force Vive de Mahagi, le dernier incident est survenu il y a une semaine dans la localité de Kolotoko où certains militaires ougandais ont traversé la frontière congolaise pour poursuivre un taximen qui circulait sans plaque d'immatriculation en Ouganda. Ces militaires ont tiré plusieurs coups de feu sans faire des victimes. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité à Mahagi, puis libérés après une rencontre entre les autorités des deux pays. Cet incident s'ajoute à 6 autres cas répertoriés par cette structure citoyenne dans la localité de Djupa où 13 motos des Congolais ont été saisies en Ouganda pour la même cause. Par contre, à Tchoumé, dans le territoire de Djougou, 7 pêcheurs ont été dépouillés de leurs pirogues sur le lac Albert et leurs filets ont été incendiés par la police de la force marine ougandaise. Les pirogues de ces pêcheurs ont été libérées moyennant une amende de 300 à 400 dollars américains, nous a confié une des victimes. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, indique que les autorités sont saisies de cette situation et promettent d'y apporter une solution idoine afin de faciliter la réglementation des pêches sur le lac Albert. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Une embarcation. On reste en Ituri. Une embarcation de fortune avec à son bord plusieurs personnes a chaviré dans la soirée d'hier samedi dans la rivière Ituri, précisément au carré minier appelé Médaille dans la réserve de faune à Okapi en territoire de Mambasa. Difficile pour l'heure de donner avec précision le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans ce naufrage, déclarent les autorités locales, car cette pirogue transportait au moins 70 orpailleurs, apprend-on. Des recherches sont en cours pour retrouver des corps de personnes disparues. L'administrateur du territoire confirme cependant qu'au moins 20 passagers ont réussi à se sauver. Au sud Kivu, des dégâts matériels et humains enregistrés, des infrastructures détruites, des bétails emportés, bilan des dernières pluies qui se sont abattues dans les territoires de Calais. Même certains établissements scolaires sont endommagés dans cette partie du sud Kivu. La société civile de Calais crie au secours. Emmanuel Elamejou Akabedi.
Le territoire de Calais est le plus affecté par les dégâts de dernières pluies qui s'abattent au sud Kivu. D'abord, le pont Makelele qui s'est totalement effondré sur la route Bukavu-Goma en groupement de Mbinga Sud. Ensuite, le pont Luzira dans le groupement de Mbinga Nord. La société civile de Calais relève des cas de bergers et leur bétail portés disparus, des champs agricoles dévastés, mais aussi des écoles détruites. Delphine Birimbi, président.
Nous sommes débordés par les dégâts de la pluie, ceci après l'effondrement encore du pont Luzira la nuit du 17 au 18 novembre 2022, village de Chibanda, groupement de Mbinga Sud, dans la chefferie de Boavu. Les routes nationales numéro 2 Bukavu-Goma, les tronçons Minova, Kabamba et des pertes de vies humaines et plus de 8 vaches emportées par les éboulements sur lac Senyabibwe, des chats emportés et actifs agricoles dévastés, plusieurs maisons emportées et d'autres endommagées à Bulambika sur lac Sebunyakiri, Nyabibwe, Manga, Mweha, Mukwija, Kinyezire, Nyamasasa, Bujuki, des écoles en voie de disparition comme par exemple l'Epebu.
Maintenant que le territoire du Calais reste enclavé, la population réclame des bateaux modernes pour la circulation à bord du lac Kivu. Emmanuel Elamejou Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Kassa Oriental, on revient sur cette mise au point de l'affaire, dans l'affaire de la saisie de 15 tonnes de malachite en provenance de Katende dans le territoire des Miabi, ainsi que du limogeage du ministre provincial des Mines. Elle a été faite le mercredi dernier en Bujimaï par le cabinet du gouverneur à travers son porte-parole. Cette réaction intervient un mois après la saisie par l'Agence nationale des renseignements de 15 tonnes de malachite ainsi que l'arrestation des transporteurs de ces minéraux. Les explications avec Esther Ndalafina.
Dans sa communication, André Rosier Kasonga, porte-parole du gouverneur, a énuméré quelques raisons ayant conduit au limogeage de l'ex-ministre provincial de Mines.
Voici quelques tares qui ont caractérisé l'action non orthodoxe de l'ex-ministre provincial aux Mines. Il a émis l'autorisation des transports des produits marchands d'exploitation industrielle. Et pourtant, nul n'ignore que l'exploitation minière dans la zone où le site de Katende est artisanal du défaut des qualités. L'ex-ministre a honteusement et avec témérité énerver les pertinentes dispositions de l'article 207 du code ou du règlement minier qui confère la qualité en matière d'autorisation des transports des produits marchands d'exploitation artisanale et industrielle.
Pour le porte-parole du gouverneur, il existe des services ou organismes compétents qui interviennent dans le contrôle et la surveillance des activités minières.
L'administration des mines, le SAEMAP, le CSC, l'OCC, la DGDA, la DGRAD, le commissariat général à l'énergie atomique et enfin les gouvernorats de province.
Cette mise au point intervient une semaine après la réaction de l'UDPS, Fédération des Mbujimaï, qui s'insurge contre les limogeages jugés sans motif du ministre honoraire des Mines. L'UDPS exige la levée de cette mesure sans aucune condition. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Alors, à l'instar des autres provinces du pays, le Kassa Oriental régorge d'autres minéraux non exploités. C'est le cas de malachite, du fer, du nickel, pour ne citer que ça. La semaine dernière, une cargaison de près de 10 tonnes de malachite en Mbujimaï a été saisie par l'Agence nationale de renseignement. Ces minéraux proviendraient de la mine de Katende dans le territoire des Miabi. Une autre cargaison de 15 tonnes a été aussi saisie depuis bientôt un mois par l'ANER, vous l'avez suivi. Alors, que pouvons-nous dire de l'exploitation des malachites dans la province du Kassa Oriental? Des explications avec Pierrot et la Mégie.
La malachite est une espèce de minéraux du groupe des carbonates minéraux. Depuis plus de mois que l'exploitation de ces minéraux a repris dans la mine de Katende par une coopérative minière dénommée Komachim. Mais cette exploitation artisanale, d'après le porte-parole du gouverneur, est jugée d'illicite. C'est ainsi que sa première production de 15 tonnes de malachite exploitées par cette coopérative a été saisie par l'Agence nationale de renseignement à cause des manques d'autorisation des transports et des sorties de ces minéraux de la province par les services habilités. La deuxième production de près de 10 tonnes a subi le même sort la semaine dernière, affirme-t-on par le porte-parole du gouverneur. D'après les sources concordantes, l'exploitation des malachites dans la mine de Katende remonte en 2013. Plusieurs cargaisons, dont la destination n'est connue à ces jours, ont déjà été saisies en Mbujimaï et à Mouenéditou par les autorités. Raison pour laquelle certains observateurs estiment que le gouvernement provincial devrait s'impliquer pour réglementer l'exploitation de ces minéraux pour permettre à la province de faire face à certains défis dont l'exode urbain vers les provinces du Haut-Katanga et Lualaba.
Qatar-Équateur, c'est la première affiche du Mondial Qatar 2022 qui démarre aujourd'hui sous les coups de 17h, heure de Kinshasa. En effet, du 20 novembre au 18 décembre 2022, 32 nations vont s'affronter pendant un mois pour remporter le prestigieux trophée tant convoité de la planète foot. Enoch Matondo revient sur les favoris, mais aussi les outsiders de cette édition.
Le monde du football va vibrer à partir de ce dimanche 20 novembre 2022 la fête du football. 32 clubs pour succéder à la France, tenante du titre qui vient cette édition pour rempiler. Des stades modernes climatisés sont construits pour faire face à une forte chaleur dans le pays. Le Qatar y a sa première participation en Coupe du Monde. Les favoris de cette compétition sont la France avec 2 trophées, le Brésil 5 titres, l'Argentine 2 titres, enfin l'Angleterre avec 2 autres titres. Par contre, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique viennent avec une casquette de outsider. Le continent africain se prépare avec 5 participants, à savoir le Sénégal qui évoluera sans Sadio Mané, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc. La République démocratique du Congo est indirectement représentée par son ambassadeur qui est sélectionné avec l'équipe de France, Axel Disasi, qui a d'ailleurs été sélectionné avec les U23 des Léopards de la RDC en 2019. Natif de Paris, Axel Disasi a vu ses parents naître à Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu. Un grand nombre de personnes se sont donné rendez-vous au Qatar pour cette Coupe du Monde qui attire également plusieurs critiques, surtout en Europe. C'est donc la deuxième Coupe du Monde en terre asiatique après l'organisation collégiale entre le Japon et la Corée, mais également la première Coupe du Monde à être organisée dans un pays arabe.
Sachez que l'équipe de Capisport, dans ses différents rendez-vous d'information en FM, va concentrer le maximum du temps sur ce grand événement mondial. Radio Capi va aussi vous proposer quelques matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 en live sur sa page Facebook. En effet, Radio Capi a obtenu gratuitement de la FIFA et de la New World TV un droit spécial de diffusion non commerciale et humanitaire de matchs de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Cette action de la FIFA et de la New World TV en faveur de la Radio de la Paix vise à contribuer à travers le football sport roi en RDC aux efforts de consolidation de la culture de paix et du vivre ensemble, en particulier chez les jeunes.
Actualité internationale.
Au Gabon, la pluie continue à faire des grands dégâts. Le 21 octobre dernier, à Libreville, 7 personnes d'une même famille sont mortes à la suite d'un glissement de terrain. Et la suite est actuellement très préoccupante dans le centre du pays, notamment dans la province du Moyen Ongoué, dont l'Ambaréné est la capitale. Dans cette province, toutes les villes et tous les villages sont inondés. Et puis, l'armée turque a mené dans la nuit du 19 au 20 novembre des raids aériens dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Cette opération baptisée Griffe Épée a visé des régions que les autorités d'Ankara accusent d'être utilisées comme base par des terroristes ainsi qu'elles considèrent les forces kurdes.
L'invité.
La RDC connaît actuellement la flambée du choléra, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et les Lualaba dans les zones minières et dans le Nord Kivu dans les camps des déplacés. Quelle est la responsabilité de la population dans la lutte contre cette maladie? Docteur Placide Wello, directeur du programme d'élimination du choléra, nous en parle. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Paul Matendo. Suivez.
Placide Wello, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous présentez le plan d'élimination du choléra en RDC d'ici 2030. Que comprend exactement ce plan?
En fait, ce plan, c'est un plan pour amener les pays à l'engagement que nous avons pris pour l'élimination du choléra à l'horizon 2030 et le contrôle des autres maladies diarrhéiques. C'est un plan qui va de 2023 à 2027. Or, 2030 n'est pas plus loin qu'avec nous. Et vous vous rappellerez que chaque pays a souscrit aux objectifs de développement durable dont l'échéance est 2030. C'est ainsi que ce plan nous amène dans le cadre de cet engagement pour l'élimination du choléra en RDC.
Quelle est la situation actuelle du choléra en RDC?
Oui, la situation actuelle, nous connaissons des flambées de choléra dans des provinces comme le Haut-Katanga, qui est une province qui a été plus ou moins calme, mais depuis la 41e semaine, l'ICASI a commencé à notifier des cas de choléra, et même Lualaba, qui est une province minière, a notifié 38 cas de choléra dans la zone de santé de Bunkea. Donc ça, c'est les flambées les plus récentes. Mais nous connaissons également la situation dans le Nord Kivu. Il y a quelques cas qui ont été notifiés même dans les camps de déplacés de Kanyaruchira. Et même au niveau des sites Kivu, il y a la zone de santé de Fizi qui connaît aussi une augmentation des cas. Donc, pour la semaine 44, le pays a notifié 511 cas et 8 décès.
Alors, vous parlez de la flambée de cette maladie. Quelles sont exactement les raisons de cette flambée?
Les déterminants du choléra sont multiples. Nous avons d'abord, en termes de l'eau, la disponibilité en eau potable. Vous savez que l'homme s'expose lorsqu'il boit de l'eau qui n'est pas traitée, qui pourrait avoir les vibrio cholérés. À ce moment-là, il peut développer la maladie. Mais il y a aussi les autres déterminants tels que l'assainissement du milieu. Ça fait que l'hygiène, en termes d'hygiène aussi, une personne qui n'a pas de bonnes mesures d'hygiène autour d'elle peut facilement, lorsqu'il mange sans se laver les mains, il peut manger les aliments contaminés ou que les mouches se sont posées sur ces aliments. Lorsqu'il mange ou boit des liquides qui sont contaminés, l'homme s'expose. Et donc ça fait que parmi les grands déterminants de la maladie, il y a les mesures d'hygiène pour lesquelles on doit renforcer la disponibilité en eau, pour lesquelles on doit renforcer et aussi l'assainissement des milieux, sans lesquels on continuera toujours à voir ces flambées de choléra. Souvent on impute la santé parfois à tort, et même on peut inviter les ministres de la Santé pour répondre des cas de choléra, alors que les autres secteurs, parfois on ne les interpelle pas pour ce qu'ils doivent faire comme responsabilité dans les secteurs respectifs.
Selon le plan que vous présentez, quelle est la responsabilité de la population dans la lutte contre cette maladie?
Oui, la population a une grande responsabilité parce que tout ce que nous faisons comme approche, comme stratégie, comme plan, la finalité c'est que c'est la communauté, chaque communauté qui doit s'engager pour mettre en place les mesures d'hygiène. Même quand on aménage les sources d'eau, c'est la communauté qui doit gérer cette source d'eau-là de manière convenable pour que la source d'eau ne devienne pas la source de la maladie. Parce que lorsqu'ils font, par exemple, les sels, la défécation autour des sources d'eau, ou que quand ils font les sels dans l'eau, sachez qu'il y a une autre personne qui prend la même eau en bas et qui peut se contaminer de choléra. Donc la communauté doit essayer de changer les comportements et faire en sorte que chacun de nous prenne en place les mesures d'hygiène, le lavage des mains avant de manger, être sûr avant de boire de l'eau, être sûr que c'est de l'eau qui est traitée.
Placide Willow, merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Polydore Basunga, la mise en onde, elle a été coordonnée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci à vous aussi pour nous avoir suivis.